Chers amis des cellules, bonjour. Nous reprenons nos rencontres après ce temps de vacances et nous commencerons aujourd'hui par un enseignement sur le thème « Dieu responsabilise son peuple ». À partir de quelques extraits de l'Écriture, nous observerons comment Dieu responsabilise, qui il le fait, combien de temps, sur quoi, mais aussi nous regarderons la conséquence que cela produit pour l'évangélisation. Remarquons tout d'abord que nous avons affaire à un Dieu qui confie des charges. Alors même qu'il est capable d'agir tout seul, on le voit au début du livre de la Genèse, c'est lui qui crée, c'est lui qui ordonne le monde, rapidement on va le voir confier des missions à quelqu'un. Prenons peut-être de façon très emblématique Moïse. Voilà que Moïse est appelé pour transmettre la parole que Dieu veut donner, parole que Dieu veut donner à son peuple, mais aussi à Pharaon. Moïse est celui qui doit guider le peuple. Moïse est aussi celui qui va juger les affaires du peuple, qui va rendre la justice au sein du peuple. Et tout au long de l'histoire sainte, on va voir le Seigneur susciter des hommes pour guider, donner la parole, juger, organiser son peuple. Ce seront les juges à l'entrée d'Israël, puis les rois, les prophètes vont y participer. On en conclut donc une volonté de Dieu d'associer des hommes à son projet dans l'histoire sainte. Dieu n'appelle pas des hommes à cause d'une incapacité qui serait la sienne, il aurait besoin de trouver quelqu'un parce que lui-même ne serait pas en mesure de le faire. Il est en mesure de le faire, mais il fait ce choix d'associer des hommes à son projet. Plus encore, ce qu'il veut faire avec certains, il semble qu'il ait le projet de l'étendre à tout le peuple. Je cite par exemple en Exode 19:6, « Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres ». Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, c'est-à-dire que tout le peuple est censé être un peuple de prêtres. On le voit encore pour la notion de prophète, lorsque certains s'inquiètent que l'Esprit Saint a été partagé à ceux qui ne sont pas montés sur la montagne. C'est en Nombre 11 au verset 29, Moïse qui répond « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète, le Seigneur leur donnant son esprit ?» Et cette remarque de Moïse sera confirmée par une prophétie du Seigneur donnée par Joël. C'est dans le livre de Joël, au chapitre 3, les versets 1 et 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dans les évangiles aussi, on retrouve encore cette idée du serviteur de l'intendant que le maître a choisi pour gérer ses biens, pour prendre soin des gens de sa maison. C'est par exemple la parabole des talents en Matthieu 25. « Seigneur, dit le serviteur, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. » Ou bien encore, en Matthieu 24, une autre parabole d'un intendant, quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Nous voyons ici apparaître un nouvel élément, c'est que le maître a confié, on pourrait dire, provisoirement des biens à la charge du serviteur. Mais son objectif, c'est que le serviteur qui s'est bien comporté reçoive une charge qui soit pérenne, reçoive la charge de la gestion de même tous ses biens, nous disait la dernière parabole que nous avons entendue, il l'établira sur tous ses biens. Et donc ce n'est pas simplement pour un moment que Dieu veut nous confier la charge de ses biens, la charge de ce qu'il possède, mais il veut que nous puissions posséder cette charge, exercer cette charge pour toujours. On pourrait dire en quelque sorte que Dieu teste, exerce ses serviteurs avec pour objectif de leur confier l'usufruit de tous ses biens, et ce pour toujours. Il est bon de se rendre compte de l'importance de la générosité de Dieu là-dedans. Il est le maître de tous ses biens parce que ses biens ne subsisteraient pas sans son intervention, mais voilà qu'il veut que nous puissions en avoir la charge et la jouissance, vraiment de tous ses biens, et ce pour toujours. La deuxième observation que nous pouvons faire est quel est le critère qui guide l'action de celui à qui le Seigneur a confié la charge de ses biens, la charge de ce qu'il possède. Eh bien, nous allons voir que le Seigneur nous envoie faire ce qu'il fait lui-même. C'est sa propre action qui est le critère de ce que doivent faire ceux qui ont reçu une charge de sa part. Entendons par exemple ce qui est dit en Luc 6, verset 35. « Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. » La règle ici, dans cette surabondance de l'amour, est d'être les fils du Très-Haut, donc de correspondre à ce qu'est Dieu lui-même, comme ses enfants participant de la même vie, participant de la même histoire. Vous serez les fils du Très-Haut. On peut regarder encore aussi en Jean 13, le lavement des pieds. Je cite, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. » Insistant sur ce que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Il s'agit que le serviteur reproduise l'action, le comportement du Maître. Un peu plus loin, cela sera confirmé par le commandement nouveau, en Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Le critère, le modèle, c'est l'action du Christ, c'est l'action de Dieu lui-même. Le serviteur n'est donc pas laissé dans l'inconnu pour exercer sa tâche d'intendant. Il a ce modèle qu'est Dieu lui-même, il a ce modèle qu'est le Christ lui-même. C'est selon lui, selon ce qu'il fait, qu'il doit calquer son comportement. Et cela nous amène au troisième point, c'est que Dieu nous envoie faire ce qu'il fait lui-même, et Dieu se donne à nous pour que nous agissions en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire que nous agissions en son nom ? C'est-à-dire que, en nous voyant agir, on reconnaisse sa propre action. C'est-à-dire que, en nous voyant agir, on le devine lui-même en train d'agir. Sa visibilité face aux hommes passe par nous. Il nous choisit pour que nous rendions visible sa présence parmi les hommes dans ce monde. Et c'est ainsi que, par exemple, en Luc 10, au verset 1, Jésus envoie les 72 disciples en mission. Il en désigne 72, les envoie deux par deux en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur donne le pouvoir de guérir, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Il leur donne d'accomplir les signes messianiques, afin que les témoins se disent « c'est le moment où Dieu nous visite », que en les voyant eux, on sache que c'est le moment où Dieu nous visite. Cela apparaîtra encore très clairement à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 et 20. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Il y a une logique derrière cela. Le Verbe s'est fait chair pour donner et pour être l'image visible du Dieu invisible. Eh bien, désormais, le Christ se donne à nous, est avec nous dans les sacrements, pour que nous soyons l'image visible du Verbe qui s'est fait chair et qui est monté aux cieux. Pour prendre un autre épisode, la guérison d'un homme paralysé à l'entrée du temple, je vous cite les Actes des Apôtres au chapitre 3, les versets 6 à 8, Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen marche. » Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. La puissance de Dieu se rend présente, visible, à travers les serviteurs de Jésus, à travers les disciples de Jésus, à travers les témoins de Jésus. À travers leur vie, à travers leur action et leur présence, c'est la puissance même de Jésus qui se donne à voir. En somme, il y a un mouvement profond que nous pouvons observer. Dieu se donne à l'homme pour que l'homme donne à voir Dieu. Dieu se donne à l'homme par sa parole et en lui donnant de prendre soin du monde, et l'homme, en retour, par sa parole et par son action, est appelé à rendre visible ce Dieu qui lui a confié le monde et qui lui a parlé. Ce mouvement est très profond parce qu'il est constitutif de la vie même de Dieu, où ce Dieu qui est Trinité sort de lui-même. Le Père se donne tout entier au Fils, qui se donne tout entier au Père dans l'Esprit. Chacun sort de lui-même pour se donner. Et l'on a même ce mouvement qui va de Dieu jusqu'à hors de Dieu. Dieu sort de lui-même par la création, se fait connaître à sa création. Et au cœur de la création, l'homme est appelé à le reconnaître, à vivre avec lui et à le faire connaître. La mission, l'annonce, l'évangélisation, le témoignage de Dieu présent et agissant, de Dieu référent de notre agir, est donc constitutive de notre être chrétien. De la même façon que Dieu est sorti de lui-même pour se faire connaître, nous devons sortir de nous-mêmes pour le faire connaître à travers notre vie et nos paroles. Nous devons sortir, nous, en qui le Christ habite, pour le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore. Cet élan de l'évangélisation n'est donc pas simplement une tâche qui nous est confiée, mais elle est participation à la vie même de Dieu, à la vie même de Dieu qui est sortie d'elle-même pour se faire connaître. Eh bien, nous aussi, si nous participons à la vie de Dieu, nous devons sortir de nous-mêmes pour le faire connaître, à travers notre parole, à la façon dont nous prenons soin des biens du monde. Évangéliser, c'est participer à la vie de Dieu. S'abstenir d'évangéliser, c'est s'abstenir de participer à la vie de Dieu. Je vous souhaite de bons échanges.